Merci d'écouter France Culture. La grande table qui commence jusqu'à 13h30. Nous sommes en direct du studio de la Maison de la Radio, en compagnie pour le journal de 12h30 de Ludovic Piétenu. Bonjour Ludovic.
Bonjour Caroline et bonjour à tous. C'est à Alep que nous commencerons cette édition de 12h30 dans la deuxième plus grande ville de Syrie, avec, on ne sait vraiment comment l'appeler, ce cessez-le-feu, cette trêve en vigueur depuis minuit cette nuit. Une trêve négociée âprement pour 2 jours. Les diplomates appellent cela un régime de calme. Il n'y a pas eu de bombardement, comme le dit un habitant, les avions n'ont fait que passer. On peut avoir des craintes pour une autre trêve, celle en vigueur depuis 2 ans entre Israël et le Hamas. Dans la bande de Gaza, notre correspondant Étienne Menin nous rendra compte d'incidents parmi les plus sérieux depuis le cessez-le-feu, des tirs répétés de roquettes contre les forces israéliennes qui ripostent en bombardant cette nuit l'enclave palestinienne. En France, la loi travaille avec un parlement en pont de l'ascension. Il restera 4 jours de débat la semaine prochaine, mais on le prolongera ici avec le sociologue Nicolas Jounin. Avec lui, nous parlerons aussi des violences policières dénoncées par les manifestants, comme lui qui a été arrêté jeudi dernier. Et nous parlerons, Caroline, de l'autre côté, de ce ras-le-bol des policiers dont les syndicats ont annoncé hier une manifestation dans une quinzaine de jours. Ce sera le 18 mai. Contre cette loi travail, il se battait, on l'a appris en fin de matinée, le décès de Siné. 87 ans, dessinateur, caricaturiste, grande gueule, anticolonialiste, anticapitaliste, anticlérical, anarchiste. C'est horriblement chiant, écrivait-il hier, de ne penser obsessionnellement qu'à sa mort qui approche, à ses futurs obsèques et au chagrin de ses proches. Et banzaï, malgré tout, concluait Ciné, Caroline Brouet.
À tout à l'heure, donc dans une demi-heure, Ludovic Piétenu. Il y a 2 jours, c'était le 80e anniversaire de la victoire du Front Populaire, le 3 mai 1936. Un anniversaire qui n'a pas échappé au président de la République, qui, participant à un colloque sur la gauche et le pouvoir, a invoqué la figure de Léon Blum pour revendiquer l'héritage de la gauche. Léon Blum, auquel nous allons consacrer toute l'émission, à l'occasion de la parution de 4 ouvrages sur lui. En dernière partie, nous recevrons l'historien Alain Bergougnou et Pierre Birnbaum pour un dialogue croisé autour du Blum politique. Et tout de suite, c'est au Léon intime, amoureux, que nous allons nous intéresser avec nos 2 invités. Antoine Billot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, mais c'est au titre d'écrivain que vous êtes là aujourd'hui. On vous doit un certain nombre d'ouvrages, dont ce dernier qui est un roman et qui a pour titre « Otage de Marc » qui a paru dans la collection Blanche de Gallimard. Dominique Missica, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, mais c'est aussi au titre d'écrivain que vous êtes là autour de la table pour votre livre Thérèse, le grand amour caché de Léon Blum. Ça, c'est le titre et le sous-titre de votre livre paru chez Alma Éditeur. Je disais qu'on allait s'intéresser dans cette première partie au Léon Blum intime, amoureux, mais à vrai dire, ce serait plus juste de dire que nous allons nous intéresser aux femmes de Léon Blum, puisque dans l'un et l'autre de vos livres, vous vous intéressez successivement d'ailleurs à ces femmes qui ont énormément compté dans la vie de Léon Blum, qui ont sans doute contribué à l'engagement politique pour ce qui est de Thérèse, le grand amour caché de Léon Blum, Dominique Missica, mais aussi sur les dernières années, les années de captivité à Buchenwald. Jeanne a compté énormément, nous allons voir cela avec vous, Antoine Billot. Mais du coup, première question, pourquoi ce Léon Blum de côté, par un biais, par une face qu'on lui connaît nécessairement beaucoup moins, Dominique Missica.
J'ai lu en 2007-2008, j'ai lu les lettres que Léon Blum écrit quand il est interné à Buchenwald et quand il écrit à son fils, qui est lui-même prisonnier de guerre en Allemagne, « Je viens de me marier avec Jeannot ». J'avoue que je suis absolument éberluée. éberlué et bouleversé de lire que à Buchenwald, dans cette captivité qu'il subit, après avoir été captif de Vichy et livré par Vichy aux Allemands, une femme le rejoint. Et cette femme, que l'on surnomme Jeannot, mais qui s'appelle Jeanne Thorez Reichenbach, me semble, elle sort de l'ordinaire, et je suis poussée par la curiosité.
À tel point que vous en faites un livre. Vous promets de revenir, 1940-1945, le dernier combat de Léon Blum, qui a été publié chez Robert Laffont en 2009.
Absolument, et c'est parce que j'ai accès, pour la première fois, je révèle ce pan caché de la vie de Léon Blum, grâce à des archives privées que je découvre, à savoir la longue et très volumineuse correspondance que Léon Blum entretient avec Jeanne pendant sa captivité, puisque je rappelle qu'il a été interné sur ordre de Vichy. Alors que Jeanne vient lui rendre visite tous les jours dans sa prison à Bourassol ou à Rion, il n'empêche que dès qu'elle part, il lui écrit des lettres enflammées, des lettres extrêmement raffinées, élégantes, pleines de ses lectures et pleines de son amour. Et ce qui fait que quand je révèle au grand jour cette correspondance amoureuse entre Léon Blum et Jeanne, j'avoue que je suis assez frappée par le fait que Léon Blum a aimé les femmes, a été aimé des femmes. Et peu de temps après, je me dis, je suis poussée à nouveau par la curiosité, je me dis, mais ce troisième et dernier grand amour qui lui permet de survivre à la captivité, qu'en était-il de ces deux précédentes femmes ?
Lise, avec qui il était marié, qui est morte en 1931, et Thérèse, auquel vous consacrez votre ouvrage et sur lequel nous allons revenir. Antoine Billot, pourquoi cet otage de marque, Blum et Blum avec Jeanne ?
Le projet était à l'origine un petit peu différent. J'étais moins intéressé dans l'absolu par le Léon Blum amoureux que par une histoire d'amour qui se compose en même temps que le pays se décomposait, en l'occurrence donc la France occupée. Donc ce qui m'intéressait, c'était plutôt d'aller sur les traces de Léon Blum, l'homme politique que l'on connaissait, mais dans ce qu'il pouvait avoir de retour sur lui-même, parce que l'enfermement s'y prêtait. Et donc ce qui m'intéressait, c'était à la fois incontestablement la dimension amoureuse et cette histoire tout à fait romanesque de Jeanne qui va le rejoindre à Buchenwald, mais aussi le retour que Léon Blum peut faire sur ses premières passions, à savoir la littérature, et c'était sa première activité. Et moi, c'est surtout cet aspect-là qui m'a intéressé. C'est en cela que l'enfermement à Buchenwald était une situation dans laquelle ces choses-là pouvaient se révéler. En fait, je suis arrivé à Léon Blum, entre guillemets, par Maurice Barrès, mon précédent livre, et c'était cet aspect-là des choses, le jeune critique littéraire que je voulais retrouver et que j'ai retrouvé dans la correspondance, en l'occurrence, qui avait été publiée par Gallimard quelques années auparavant.
On a retrouvé une archive de la voix de Léon Blum de retour de Buchenwald, et il se trouve que c'est le seul moment radiophonique où Blum parle de sa femme, donc en l'occurrence de Jeanne, et tendez bien l'oreille, il l'évoque à peine. Le Blum privé est beaucoup moins connu, il fait beaucoup moins référence aux femmes, à sa vie privée, que évidemment le Blum politique. Écoutez-le donc de retour de Buchenwald.
Je ne suis pas l'un des martyrs. Nous avons connu en Allemagne la séparation total du reste du monde et la suspension permanente de la mort. Nous n'avons connu ni les coups, ni l'accablement du travail servile, ni même à proprement parler la faim. Mais je suis un témoin et je peux déposer pour les martyrs dont bien peu sont retenus pour déposer eux-mêmes. J'ai vu de mes yeux, comme dans les bas-reliefs égyptiens ou assyriens, la longue file des captifs attelés comme des bêtes de somme aux chariots chargés de pierres, ou courbés sous les longues pièces de bois qui faisaient plier leurs épaules. des nuits durant. J'ai respiré l'odeur des fours crématoires. Pour ma femme et pour moi, le mot de liberté n'a pris de réalité, parce que la liberté et même la vie n'ont recommencé pour nous que le matin, où, dans un coin perdu et glacé des Dolomites, nous avons aperçu tout à coup, du haut de notre fenêtre, des casques américains.
Est-ce que vous reconnaissez l'un et l'autre? Peut-être vous, Dominique Missica, d'abord, qui avez épluché, lu la correspondance. Cette verve, ce lyrisme plombé, bien sûr, par l'histoire, mais dans cette voix de Léon Blum au retour de Buchenwald en 1945.
Il y a cette sensibilité à fleur de peau que ses détracteurs et ses adversaires ne manquaient pas de stigmatiser en traitant d'efféminés ou d'introvertis. C'est une voix toujours à la fois fluette et très ferme et qui donne à une dimension extraordinaire à sa parole. Et c'est un homme du verbe. Et c'est un homme qui, quel que soit son auditoire, se fait entendre alors que sa voix semble assez faible, assez en retrait. Or, chaque mot est choisi, chaque mot est dit avec cette sensibilité et cette efficacité que l'on doit lui reconnaître d'un grand tribun.
Antoine Billot.
Oui, cette voix est assez touchant d'entendre ce témoignage. En ce qui concerne les citations, ou du moins le fait qu'il parle un tout petit peu de sa femme, parce qu'on entend juste « ma femme et moi », il a quand même écrit un texte en rentrant de Buchenwald, dans lequel il raconte le moment où il sort, à partir du moment où il quitte Buchenwald jusqu'à la libération, dans lequel il fait quand même état de la présence à ses côtés de sa femme et de l'aide qu'elle a pu lui apporter. Il y a y compris cette anecdote assez rocambolesque où elle a envie en fait de s'échapper, où elle voudrait profiter d'un moment de distraction entre guillemets, des Allemands qui sont autour d'eux pour s'échapper. Donc, c'est cette voix, puis c'est tout à fait étonnant. Alors d'abord, il y a la lenteur de la voix, il y a une certaine forme de solennité dans la voix qu'on retrouve également dans les discours, enfin tels qu'on peut les entendre sur un certain nombre d'archives. Et ça rend tout à fait étonnant quand on pense qu'à l'époque, quand il y avait des grands discours politiques, si on compare la diction de cette génération avec ce que l'on entend aujourd'hui, le niveau de vocabulaire, la façon dont les phrases sont pensées, sont mûries, dont les mots arrivent avec un certain nombre de références, c'est tout à fait sidérant. Et en même temps, on trouve là l'essentiel de Blum, c'est-à-dire le Blum plein de références littéraires, le Blum qui écrit en fait en même temps qu'il parle, parce qu'en fait c'est la phrase qu'on vient d'entendre est extrêmement écrite en fait d'une certaine façon, et c'est vraiment à des années-lumière de ce qu'on entend aujourd'hui.
Oui, bon, en même temps, je disais que on connaissait pas ce Blum à travers les femmes, parce que les discours politiques qu'on connaît de Blum, et puis de toute façon l'œuvre de Blum, que ce soit au Front populaire avec les congés payés et les 40 heures hebdomadaires de travail, ne donne aucune raison qu'on entende parler des femmes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce sera encore difficile d'entendre un homme politique parler de ses femmes ou de sa femme. En tous les cas, on ne leur demande pas cela. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'il ne parlait pas ou peu de ses femmes, que ce soit Thérèse, Lise ou que ce soit Jeanne, qu'elles n'ont pas joué un rôle considérable, y compris dans l'entrée des femmes au gouvernement, oui, dans peut-être le féminisme de Blum.
Il ne faut pas oublier qu'il a quand même écrit un livre sur le mariage dans lequel, à défaut de parler de ses propres femmes, il parlait du statut des femmes et ce que l'on pouvait envisager du statut des femmes dans un pays plus moderne, etc. Donc il y a toujours eu chez lui un souci incontestablement des femmes, indépendamment, et encore une fois, effectivement, des femmes que lui-même a pu connaître. Mais quand même, il faut se souvenir que dans ce livre du mariage, il émettait à l'époque des thèses tout à fait incroyables en ce qui concerne les mœurs attendues des femmes, puisqu'il estimait en gros qu'il fallait, pour qu'un mariage soit réussi, que les femmes, pour faire vite, aient à peu près fait le même type d'expérience que les hommes pouvaient en faire de leur côté, tel que c'était socialement accepté à l'époque. Donc quand on imagine que ce type d'ouvrage puisse être publié au début du XXe siècle, c'était tout à fait sidérant. Donc c'était vraiment quelque chose qui était déjà quand même dans sa problématique personnelle.
Oui, Dominique Missica, vous montrez que Blum était un partisan de l'égalité entre hommes et femmes. Il a fait entrer des femmes dans le gouvernement. Vous parlez de Thérèse, on va revenir sur ce parcours, comme d'une first lady, après la victoire du Front Populaire. Est-ce que vous diriez que Thérèse a œuvré à changer la place des femmes en politique? Ou c'est allé trop loin?
Je crois que Thérèse, qui donc a été la maîtresse de Léon Blum pendant près de 20 ans, une femme de l'ombre, amoureuse, audacieuse, moderne, d'avant-garde, donne une image de la femme quand elle est enfin son épouse en 36. Elle donne une image beaucoup plus moderne que les femmes de l'époque. Je ne crois pas que Thérèse ait œuvré pour l'entrée des femmes au gouvernement. Sans aucun doute, elle n'a pu que approuver et être satisfaite. Elle était membre du Comité national des femmes socialistes. Mais je ne crois pas que Thérèse était une féministe. Je pense que ce qui m'a frappée et qui m'a vraiment intéressée dans la personnalité de Thérèse, c'est qu'elle est la maîtresse, elle est la muse, qu'elle est amoureuse de Léon Blum et qu'elle va sacrifier sa vie personnelle puisqu'elle va divorcer alors que Léon Blum ne divorcera pas, qu'elle va être à ses côtés en permanence, qu'elle va le galvaniser, le pousser à entrer en politique, qu'elle va être à ses côtés une accompagnatrice, qu'elle va, avec son sens, je dirais, de la modernité, parce que c'est une anticonformiste, enfin, une bourgeoise, certes, mais d'avant-garde, qui ouvre une boutique de décoration dans les Paris des années folles, qui conduit sa voiture, elle est moderne. Donc je crois que c'est cette modernité, cet aspect d'avant-garde que Léon Blum aime chez elle et qu'elle va aider à montrer aux femmes qu'il y a une manière d'être différente, émancipée, égale. Mais ne la faisons pas non plus une suffragette et une féministe. Je crois pas. Et je crois que c'est son rôle auprès de Léon Blum qui éclaire la personnalité à la fois de Léon Blum. Et je me suis attachée. Et c'est vrai que ça m'a amusée parce que là, on écoute Léon Blum. Moi, j'ai cherché les photos où elle apparaissait aux côtés de Léon Blum. Et ça m'a beaucoup amusée.
Vous en mettez d'ailleurs dans le livre. Absolument. On en voit certain nombre.
Parce que c'était une manière, elle n'a pas laissé d'écrits intimes, sauf les lettres amoureuses qu'elle a échangées avec son amant, donc Léon. En dehors de ces lettres-là, elle a laissé peu de traces écrites. En revanche, l'apparition de Thérèse aux côtés de Léon Blum dans les meetings, dans les manifestations, dans les réunions publiques où elle apparaît à ses côtés, la rend du coup effectivement ce que j'appelle first lady. Elle est une première dame.
Quelle était la personnalité de Jeanne qu'a rencontré donc Léon Blum un peu plus tard? Ils se connaissaient depuis une dizaine d'années,
C'est une histoire assez différente, puisqu'il y a donc une très grande différence d'âge entre les deux. Et puis par ailleurs, il s'agit d'une histoire assez romanesque, puisque Jeanne tombe amoureuse de Léon Blum très tôt, en fait elle est encore adolescente, et elle s'en fait une espèce de représentation avec sans doute quelque chose qui renvoie aussi à l'inaccessibilité du personnage, au moins durant les premières années, mais sans jamais cesser en réalité d'être en contact avec lui. Et d'une certaine manière, pour résumer, on pourrait presque dire qu'elle attend son tour. Donc elle va laisser passer Lise, elle attend son tour, et puis quand elle va sentir que son tour arrive, eh bien elle va pas rater de prendre son tour. Par ailleurs, cette femme incontestablement a un certain nombre de points communs. C'est également une femme moderne, c'est une femme qui s'assume en tant que femme, y compris dans ses choix et même dans le choix final qui sera quand même finalement d'une certaine façon de laisser ses fils et son premier mari pour demeurer en France aux côtés de Léon Blum qui n'était alors que son amant. Donc c'est incontestablement sans doute quelque chose qui est commun à toutes les femmes, sauf peut-être la première, toutes les femmes qui ont fasciné Léon Blum, c'est ce côté effectivement de femme qui s'assumait en tant que femme indépendamment de l'homme qui était à leur côté. Et ça c'est particulièrement marquant au sein de l'enfermement à Buren Wald, où on voit que quand on voit en particulier dans la correspondance de Léon Blum, telle qu'il, par un certain nombre de détails, il peut la raconter à son fils, on voit qu'elle installe finalement une certaine comment dire discipline à l'intérieur du Falkenhoff, en amenant un certain nombre de dimensions qui étaient par définition absents de cette résidence.
Juste par parenthèse, le Falkenhoff était cet endroit où ils étaient à quelques centaines de mètres
du camp de
Buchenwald, une maison gardée bien sûr puisqu'ils étaient assignés à résidence. Mais malgré tout, et là on en vient au titre de votre livre et à son propos, Antoine Billot, c'était un otage de marque. Il avait des conditions donc particulières à part des autres, et il avait là un certain nombre de compagnons d'infortune, pas tant que ça, hein. Un en particulier qui est dans votre ouvrage, qui est Georges Mandel, avant que Georges Mandel soit assassiné, et puis un autre personnage, ils sont quatre dans votre roman, qui est un jeune témoin de Jéhovah, Joachim Escher, chargé de l'intendance du Falkenhoff. Pourquoi ces personnages en dehors de Jeanne, autour de Léon Blum, pour restituer la réalité du moment, ou parce que romanesque là aussi?
Ouais, un petit peu les deux, c'est-à-dire qu'en fait effectivement il faut se resituer un petit peu le Falkenhoff en quelque sorte. Donc c'est un pavillon de chasse qui a appartenu à Himmler, qui se trouve donc en bordure du camp de Buchenwald. Il est cerné par une palissade avec des soldats qui sont en permanence autour, et donc c'est ce que dit d'ailleurs dans l'extrait qu'on a entendu de Léon Blum, c'est l'isolement par rapport au monde. Ils sont mis en retrait du monde. Le statut d'otage de marque est un statut qui permettait simplement aux Allemands de conserver une sorte de monnaie d'échange en cas de nécessité. Et on verra d'ailleurs que Georges Mandel, qui sera demandé suite à l'assassinat d'Henriot, en fait sert de monnaie d'échange dans un certain nombre de circonstances. Donc l'idée des Allemands était de conserver ces hommes dont on considérait qu'ils étaient responsables en partie de la débâcle, mais de les conserver d'une certaine façon en épargne, de sorte que si un certain nombre de circonstances rendaient nécessaire qu'on les échange, eh bien on pouvait les échanger. Mais pour cela, il fallait qu'ils soient néanmoins conservé dans un état entre guillemets différent de celui qui était donc la conséquence du sort que suivaient les gens qui étaient à Buchenwald à quelques centaines de mètres. Et donc à l'intérieur de ce pavillon de chasse, qui est donc une sorte de petit monde extérieur, isolé, avec sa propre économie, sa propre discipline, on trouve effectivement quatre personnages. Alors ce personnage de Joachim, l'intendant, donc Joachim était lui-même déporté, puisque les témoins de Jéhovah à l'époque étaient déportés, mais avec néanmoins ils subissaient pas exactement le même sort que d'autres déportés comme les juifs ou les communistes. Donc le commandant Pfister va choisir l'un d'entre eux, croyant en plus que Joachim ne parlait pas et ne comprenait pas le français, pour servir d'intendant dans ce pavillon, et donc pour organiser les repas, l'hygiène habituelle du tout. Et ce qui est assez amusant, c'est que Joachim Escher a publié des années après un témoignage sur la période où il était au Falkenhoff avec Mandel et Blum, et il raconte dans le détail la façon dont ça se passait, entre la topographie des lieux, la façon dont lui-même avait un pauvre petit lit dans la cuisine sur lequel il a dormi durant toute cette période. Et il a donc rendu ce témoignage. Il est resté d'ailleurs en relation au moins épistolaire avec Léon Blum après-guerre. Lui, donc, il était aussi un déporté par définition, mais disons qu'il n'était pas exactement dans la même situation, puisque d'une certaine façon, il était l'intendant d'autres déportés. Donc ça rendait les choses un petit peu différentes. Et donc tout ceci forme une sorte d'économie assez particulière avec ces deux personnages, Mandel et Blum, dont il ne faut pas oublier que par ailleurs, ils étaient ennemis politiques avant d'arriver là. Jeanne qui vient amener une touche de féminité dans un endroit où on n'imagine pas du tout que...
Jeanne qui met la moitié de votre roman à la rejoindre. Hein. On se demande comment elle a réussi à aller là.
Oui, c'est le côté tout à fait incroyable
de la
démarche. Oui, absolument. Qui est le fait de... Puis en plus, il faut quand même se souvenir, c'est cette femme est juive. Donc le fait à cette époque-là de faire des démarches pour rejoindre son amant à Buchenwald, c'est quelque chose de complètement incroyable. Plus ensuite, effectivement, la conclusion de tout sera qui sera le mariage au Falkenhoff
en 43
de Léon et de Jeanne.
La soprano allemande Lotte Lehmann, que Thérèse va admirer au Théâtre des Champs-Élysées dès son ouverture en 1913, on est là en 1927. Elle chante un extrait du Chevalier à la Rose de Strauss, Dominique Missika. On pourrait presque dire, par rapport à vos deux ouvrages, à vous et à celui d'Antoine Billot, que là où Jeanne accompagne le désengagement, le déclin de Léon Blum à la fin de sa vie, au moment où après avoir été baladé de prison en prison, et alors même qu'il a réussi à un tour de force de retourner l'opinion publique en sa faveur lors de son procès à Riom en 42, malgré tout il est sur le déclin, il meurt en 1950, alors que Thérèse, elle a accompagné de 1902 à 1938, année de la mort de Thérèse, brutalement, l'engagement, le raffermissement de ses convictions, son cheminement d'homme politique, on pourrait dire ça comme ça.
Elle l'accompagne dans la conquête du pouvoir. Thérèse est une femme énergique, une femme qui a une tête, qui n'a pas une tête politique à mon sens, mais qui a une sensibilité sociale. Elle a été infirmière pendant la Grande Guerre et elle découvre la misère sociale, la souffrance, la mort, les séparations. Enfin, elle découvre la réalité du monde à laquelle elle n'était d'ailleurs pas absolument pas préparée, parce qu'elle est née dans un milieu tout aussi bourgeois que celui de Léon Blum, un milieu de la belle époque où on va de salon littéraire au salon de musique, à voir des expositions de peinture, et donc elle
ce qu'on leur reproche beaucoup d'ailleurs. Dans ce climat de haine des années 30, bon, on y reviendra en deuxième partie avec nos deux invités, bien sûr, sur le climat et l'homme politique, mais cette différence, ce hiatus entre la vie bourgeoise menée par Thérèse et Léon dans ces années-là et la défense des ouvriers est très très mal perçue, puisqu'elle est mal comprise.
Absolument, mais c'est vrai que Thérèse partage avec Léon peu de moments, puisqu'il est donc marié de son côté, qu'il est au Palais Bourbon, qu'il fait...
Lui ne divorce pas, hein.
Lui ne divorce pas.
Maintient les deux couples.
Absolument. Il est député au Palais Bourbon, il est même député de l'Aude dès 1929, il est à la SFIO, il est un homme extrêmement occupé, mais à ses côtés, Thérèse, elle représente la musique, la peinture, le théâtre, la lecture.
Ils sont soudés à la fois par leur amour et par le goût de la politique. Et vous écrivez, Dominique Missika, « Sans Léon, Thérèse aurait été une autre. Sans Thérèse, Léon aurait été un autre. »
Pays qui frémit d'impatience, c'est tout un peuple qui réclame du pain. Vas-y sans peur, tente ton expérience, nous sommes là pour faire taire les coquins. Vas-y Léon, défends ton ministère. Vas-y Léon, faut que Marianne ait raison, car Marianne est une aumônière, et les ailes de son moulin doivent tourner pour les prolétaires, pour que les gueux ne créent plus de faim, de faim, de faim.
Vas-y Léon, que vous surnommez Little Bob, Antoine Billot, dans votre livre. C'est pas vous qui le surnommez, c'est ses amis dans
oui,
sa jeunesse
amis,
qu'il surnommait Little Bob. Little Bob qu'on peut trouver dans votre livre Otage de Marc, roman paru chez Gallimard. Thérèse, c'était le nom de Thérèse Pereira. Dans votre livre à vous, Dominique Missika, intitulé Thérèse, et sous-titré Le grand amour caché, mais au jour pendant quelques années quand même après. Le grand amour caché de Léon Blum, paru chez Alma Éditeur. Un grand merci à tous les deux d'être venus, qui plus est, un jour férié, ça on ne lui doit pas, à Léon Blum. Nous passerons en 1936 en compagnie de nos deux invités tout à l'heure. Dans un instant, c'est le journal et la suite de la grande table.